C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandigue. Auteur, la vie même. Spartacus est une personne qui, à force de captation par l'imagination, d'interprétation par les œuvres d'art, est devenue un symbole plus encore qu'un personnage. Personnage ou symbole, donc Spartacus. Adaptation, au moins 7 films, une série télévisée, 2 ballets, quantité de tableaux, de romans, de bandes dessinées, dans ce qu'on pourrait appeler l'espace d'imagination occidentale. Nous sommes loin d'être sûrs de l'existence dans la vie physique de bien des personnages de l'Antiquité, par exemple ceux d'Homère. Ajax le Grand, auquel j'ai récemment consacré un personnage en personne, n'a probablement pas existé autrement que dans l'imagination d'Homère, puis dans la nôtre, ni Hector, ni bien d'autres. En revanche, nous sommes certains de l'existence physique d'une personne de l'Antiquité, Spartacus. Et c'est un esclave. Alors que nous avons perdu le souvenir de tant de généraux, de tant de sénateurs, de tant de gloires, l'esclave Spartacus reste dans nos mémoires. Il y a fallu une révolte, bien sûr. À part les artistes, rien n'est remémoré qui ne soit proche du pouvoir. Spartacus en a été proche puisqu'il s'est militairement opposé à lui. On ne connaît de Spartacus qu'une action, ce qui est plus que ce que la plupart des hommes font, si par action on entend autre chose que la simple réitération des gestes d'un métier. Je dirais que, dans l'ordre, ce qu'on trouve le moins dans l'humanité, ce sont des idées. Je prie les auditeurs de me dire combien de personnes exprimant des idées générales ils connaissent, puis des actions. L'action, bien souvent, est une violence contre la pensée. Celle-ci, se suffisant à elle-même, elle peut oublier les souffrances des autres, et ces autres ne voient parfois plus que la violence pour s'opposer à la conservation éternelle des choses, appelée précisément « ordre des choses ». Les révoltes d'esclaves ont été rares, ce qui ne veut pas dire que l'esclavage est défendable, mais qu'il a été admis. Lorsqu'il y a peu de révoltes, c'est que l'état des choses est considéré ou bien comme reposant, ou bien comme menaçant. Paul Venn a montré que tout le monde approuvait ou admettait l'esclavage à Rome. En des centaines d'années, cette société si réfléchie, puisqu'aussi bien une des inventions de Rome a été le droit, n'a pas considéré que l'esclavage était scandaleux. Tout au plus, trouve-t-on une vague mention critique dans une lettre de Sénèque, mais on ne sache pas que ce philosophe milliardaire ait fait ce que Tolstoï a fait plus tard, libérer ses esclaves. L'esclavage, ce n'est pas bien, nous sommes vertueusement d'accord, mais nous, dans nos sociétés non moins civilisées, pour le dire vite, que Rome, quel est le comportement que nous reproduisons sans penser que nous sommes ignobles et que nous serons jugés comme tels par ceux qui nous suivront? Est-ce que ce sera notre comportement envers les handicapés, les animaux? Quel tribunal de 2220 dira « Dandigue, vous avez fermé les yeux sur ceci et vous êtes aussi coupable que le propriétaire de Spartacus ?» Qui est Spartacus? Pour en parler, je reçois Christophe Onodibio, écrivain, directeur adjoint de la rédaction du Point, producteur du Temps des écrivains sur France Culture et auteur de la Minute Antique aux éditions de l'Observatoire. Christophe Onodibio, Spartacus a été le meneur d'une de ces révoltes qu'à Rome on a appelée guerre servile sous la République. Il y a eu souvent des révoltes d'esclaves étrangers en Italie qui ont mené parfois à de vraies, sinon de vraies guerres, des batailles.
Spartacus, en effet, Charles Dantzig, vous le savez, arrive après au moins deux révoltes d'esclaves qui ont lieu en Sicile et qu'on a appelé les guerres serviles. Donc c'était effectivement pas la première révolte d'esclaves. La différence, c'est que c'était la Sicile et que Spartacus, c'était vraiment l'Italie, le continent, et donc ça posait d'autres problèmes. Mais on peut dire qu'il arrive en troisième position.
Les révoltes se produisaient dans les endroits, et ne se sont produites que dans les endroits où il y avait un grand nombre d'esclaves, c'est-à-dire dans les grands territoires à cultiver et qui étaient, comme vous l'évoquiez, le sud de l'Italie.
Oui, alors la révolte de Spartacus commence dans un domaine, on peut dire une grande propriété, qui est un centre d'entraînement d'esclaves à Capoue, qui était le plus grand d'ailleurs centre d'esclavage, tenu par un certain Lentulus Batiatus. Il était thrace, je ne sais pas s'il faut le préciser, et c'est l'une d'ailleurs des raisons de la prise de cette révolte, c'est qu'il était thrace. Thrace, il était aussi entouré de Gaulois, et ces gens-là parlaient la même langue, ce qui a permis la fédération de la colère et le véritable mouvement de révolte.
Thrace, c'était vers l'emplacement de l'actuelle Bulgarie.
Exactement, voilà. Il était Thrace.
C'était des demi-barbares. Hein,
c'était des demi-barbares.
C'était dans l'Empire, mais pas...
Exactement, on pense, parce que vous le disiez dans l'introduction, on ne sait pas grand-chose, que vous parliez des personnages imaginaires. Lui, c'est un personnage historique, mais on ne sait pas grand-chose sur lui. Plutarque dit qu'il était d'une grande beauté, d'une grande force, d'une grande douceur. Et il précisait quelque chose qui est très intéressant, puisque vous parliez de barbarie. Il disait que sa douceur était bien supérieure à sa fortune et plus digne d'un grec que d'un barbare. C'est-à-dire que Spartacus, et d'ailleurs Spartacus montait à cheval, ça on le sait, il y a d'ailleurs cet épisode fameux où avant la bataille finale il offre son cheval en le tuant au grand dieu Thrace qu'on appelait le dieu cavalier, donc c'était peut-être aussi un aristocrate, on ne sait pas. Et c'est intéressant que celui qui est devenu l'idole du prolétariat était peut-être finalement pas au départ un laborieux, j'allais dire.
Ça, je crois qu'on n'en sait vraiment rien, parce que c'est Alluste qui est plus proche de, dans le temps. Il faut dire qu'aucun des historiens qui nous ont donné des traces de ce Thrace, si je puis dire, ne l'ont connu. Toutes les sources sont de seconde main. L'historien le plus proche est Salluste, qui, comme tout le monde sait, était un ami de César, donc qui est du 1er siècle, mais il n'a fait que recueillir des récits de la génération d'avant. Donc tout ça est plus tard que bien évidemment.
Mais on peut fantasmer.
Vous n'avez pas encore prononcé le nom de gladiateur. Il faut dire que les gladiateurs, ce que c'était un peu, parce que je crois que dans l'esprit des gens, les gladiateurs étaient tous des esclaves, ce qui n'est pas vrai. Ça pouvait être ou bien des esclaves, ou bien des forçats, ou bien des criminels qui tentaient de se racheter. Et parfois des hommes libres qui se louaient pour un combat. Donc,
bien sûr. Et quand on dit esclave, vous avez rappelé aussi, c'est vrai que c'est toujours difficile de se dire que la Grèce antique ou la Rome antique ont été ces sociétés qu'on a tendance à révérer. Comme nos glorieux ancêtres, inventeurs du droit, de la démocratie, etc., de la philosophie, ont aussi produit l'esclavage. Et que peut-être que les conditions d'ailleurs de la démocratie, notamment athénienne, reposaient sur la possibilité d'un esclavage qui permettait que le travail soit fait et que les hommes libres puissent se consacrer à autre chose. Mais en fait, souvent, l'esclavage dans la Grèce antique était extrêmement et la Rome antique reposait sur des prisonniers de guerre beaucoup. Et on pense alors dans le cas de Spartacus, il aurait été non pas un légionnaire romain, certains historiens parlent de la légion. Mais en fait, ce qu'on appelait un auxiliaire, n'étant pas romain, il ne pouvait pas être dans une légion romaine, mais il faisait partie de ces auxiliaires, c'est-à-dire ces troupes, ces sentinelles qui venaient en aide aux légionnaires ou qui gardaient les ponts, etc., etc. Et il aurait déserté parce que ces gens étaient moins fidélisés que les légionnaires romains, que les citoyens romains. Il aurait déserté, il serait devenu brigand et il aurait été rattrapé et donc vendu sur un marché d'esclaves et envoyé donc dans ce centre d'entraînement le plus célèbre de l'Italie à l'époque, donc à Capoue, connu pour ses fameuses délices. Et effectivement, on ne sait pas, par exemple, ils vivaient ensemble, ils étaient plutôt bien traités, ils étaient véganes d'ailleurs, les gladiateurs, on les appelait les mangeurs d'orge, et ils étaient, il y a une femme hein, dans la révolte de Spartacus, il y a une femme d'ailleurs, une Thrace, une prêtresse de Dionysos, donc il y avait aussi des femmes qui étaient là, les hommes qui étaient là. Spartacus d'ailleurs, quand il se révolte, commence par prendre les couteaux de cuisine, donc c'était des énormes domaines hein. On parle de 200 combattants hein, dans cette école, dans ce centre d'entraînement d'esclaves à Capoue.
Donc on est en 73. Hein, au début.
Exactement. Et en fait, ce qui est très, vous le disiez vous-même, c'est un peu, il n'y a pas d'identité d'esclaves ou d'homogénéité. C'est un groupe extrêmement divers. En revanche, un groupe sur lequel quand même repose une certaine indignité. C'est l'une d'ailleurs des raisons des combats victorieux de Spartacus, c'est qu'au départ, les Romains n'ont pas du tout envie de se battre contre une armée d'esclaves. Et d'ailleurs, plusieurs historiens romains expliquent que, certes, la révolte de Spartacus et des esclaves a apporté un certain nombre de malheurs à la République romaine, mais a ajouté la honte à ces malheurs. Donc c'était vraiment l'indignité. Hein, on parlait même de leur nudité qui gênait.
Il n'y a pas que ça. Si les armées romaines n'ont pas combattu, c'est que d'abord elles n'étaient pas là. Parce qu'ils étaient dans des théâtres d'opérations extérieures. Pompée était en Espagne. Donc tout d'un coup, le territoire était vide. Mais revenons au début. Donc il y a plusieurs facteurs. Donc on est à Capoue. Ce Spartacus, qui est le nom romain qu'on lui a donné, se révolte et s'enfuit avec, dit Plutarque, 78 gladiateurs. Exactement. Ça aussi, c'est deux siècles après, donc on sait, disons, une dizaine de gladiateurs. Ouais.
Le nom qu'on lui a donné, Spartacus, ou le nom qu'il aurait porté, puisque en Thrace, hein, donc dans ce royaume, on a des Spartacos. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit Spartacus, fort comme un Spartiate, mais ce serait plus vraisemblablement son nom Thrace, donc son nom. C'est vrai que les gladiateurs avaient des noms de scène. Voilà, assez intéressant.
Et donc ces mettons 78 gladiateurs se révoltent, s'enfuient et sont peu à peu rejoints, ce qui est intéressant, par une masse hétéroclite. Exactement. De gens.
C'est une époque troublée, vous rappeliez tout à l'heure les guerres serviles, hein, qui ont précédé tout ça. Et en fait le prolétariat de l'époque n'est pas très heureux, et notamment les bergers en Sicile pendant les guerres serviles en Sicile, un certain nombre de bergers avaient déjà rallié ces révoltes d'esclaves. Et en fait, ils partent à 78, effectivement, ils sont très peu, ils n'ont pas d'armes, ils ont les couteaux de cuisine du centre d'entraînement, ils braquent un chariot où ils trouvent justement des armes de gladiateurs, et peu à peu, ils font des razzias, en fait. Ils font des razzias et donc, ils fédèrent un certain nombre de paysans. Vous rappeliez tout à l'heure le théâtre d'opérations extérieures, les théâtres qui se multiplient, on pourrait parler de latifundia, en fait. Ces grands domaines sont au fond assez peu gardés. En fait, ils sont gardés par les esclaves, mais les esclaves n'ont pas tellement envie de se battre pour défendre ces domaines qui ne leur appartiennent pas, d'autant que les maîtres sont à Rome et que c'est une période vraiment de détestation des maîtres. Donc, en fait, il agrège avec lui une foule totalement hétéroclite, des bergers, des agriculteurs, qui se battent avec des armes de toutes origines.
Alors, le parcours de Spartacus est relativement bien connu, c'est-à-dire on va pas le faire petit à petit, donc il a jusqu'à, disons, 40 000 personnes, il en laisse un peu dans le sud, et lui, ce qu'on sait, c'est que son idée, et c'est là qu'il est original par rapport aux révoltes précédentes, et particulièrement à celles qui précédaient juste avant, que vous avez évoqué, Christophe Onalibur, en Sicile, dans cette précédente révolte, l'esclave révolté qui était d'origine syrienne, c'était déclaré roi. Donc il y a aussi une ambition de pouvoir assez puérile au fond, mais Spartacus n'a pas du tout ça. Lui, son idée, c'est de remonter vers le nord pour quitter l'Empire et que chacun des esclaves puisse rentrer chez lui.
Exactement, et c'est pour ça qu'il avait d'ailleurs noué des relations avec les pirates. Il y a beaucoup, alors dans les facteurs de discorde et de déséquilibre de l'époque, il y a la piraterie. On en parlera peut-être tout à l'heure dans la récupération de Spartacus. Il y a ce fantasme d'un Spartacus qui aurait voulu fonder une utopie en Calabre, dans la ville de Tyrium, une ville ou une colonie en fait, où l'or ou la monnaie aurait été interdite, où Spartacus n'aurait utilisé que le fer et le bronze pour fabriquer les armes. En fait, il n'y a jamais eu véritablement d'utopie. D'ailleurs, ce n'est pas une révolution que fait Spartacus, c'est une insurrection.
Et donc, il a quand même des victoires assez inouïes face aux armées romaines pour une troupe aussi nombreuse soit-elle d'esclaves et de voilà.
Exactement.
Et puis, pour le faire vite, le Sénat destitue les consuls en place et nomme un homme fort, qui est Crassus, fameux Crassus, qui sera triumvir avec César, Plutarque et Pompée. Et qui est un affairiste, en fait.
Qui est un homme extrêmement riche. On dit qu'il a multiplié la fortune de ses parents par 20, qui, en fait, a fait des choses qu'on pourrait d'ailleurs transposer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à certains moments troublés où certaines personnes perdent leurs biens, leurs maisons, il les rachetait, évidemment, à bas prix. Il spéculait dans l'immobilier. Il lui manquait une chose. Il lui manquait le pouvoir politique. Il avait le pouvoir financier.
Et il s'est dit... mais c'était un latifundiaire aussi.
Exactement. Il avait lui-même des esclaves. Voilà. Il avait des esclaves. Donc, il y avait effectivement, puisque, comme on le disait tout à l'heure, hein, personne, il y avait pénurie d'hommes, hein, puisque les combats se faisaient dans l'Empire romain. C'est aussi pour ça, hein, que Spartacus a pu quand même perdurer si longtemps. Et personne ne voulait se battre avec les esclaves. Lui s'est dit, je prends finalement le défi à bras-le-corps, parce que c'est ça qui va me permettre d'écraser Spartacus, me permettra d'être fêté comme un triomphateur. Triomphe d'ailleurs qu'il n'aura pas, puisque Pompée va lui voler la victoire sur Spartacus. Et lui, Crassus, va employer des méthodes définitives, expéditives, c'est-à-dire qu'il pratique... va pratiquer un usage qui s'était qu'on n'utilisait plus en fait dans l'armée romaine, ce qu'on appelle la décimation, c'est-à-dire que quand un certain nombre de soldats désobéissent, on les aligne, on en prend un sur 10 tiré au sort et on le tue. Et comme ça commençait mal la reprise en main de Crassus de l'armée pour vaincre Spartacus, puisque certains soldats désobéissaient, il a pratiqué cette décimation et très vite les soldats romains n'ont plus voulu désobéir, et là, ça a été le début de la fin pour Spartacus.
Alors, on a, après la défaite et la mort de Spartacus sur le champ de bataille, les Romains, et Crassus en particulier, ont organisé le spectacle de sa défaite avec une cruauté stupéfiante et destinée à stupéfier, c'est-à-dire qu'on sait que la route de Capoue à Rome a été marquée, était un fleuve de sang, puisqu'il n'y avait pas moins de 6000 crucifiés.
Exactement.
Entre Capoue
sur
et
la
Rome.
Voie appienne.
Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, symboliquement, c'était très fort, puisque c'est de Capoue qu'était partie la révolte. Rome n'a pas été... Alors, on pense, mais on est dans les spéculations, d'ailleurs que comme Hannibal, Spartacus aurait renoncé à prendre Rome à cause des murailles, et puis il savait que c'était pas adapté. En tout cas, symbolisme fort, la route de l'endroit où a commencé la révolte, jusqu'à son terme, Rome, qui n'a donc pas été prise et d'où est partie finalement la reprise en main, 6000 hommes, oui, crucifiés, 6000 hommes qui étaient rescapés justement de la dernière bataille et que probablement Pompée a fait crucifier en disant que Crassus avait...
Ah pardon, je crois pas, Crassus a fait crucifier dans le sud et Pompée dans le nord a tué 5000 personnes de plus.
Et Pompée dans le nord,
je crois.
En disant que certes Crassus avait stoppé le mal, mais que lui, il avait extirpé la racine, voilà. Puisqu'il y avait, c'est intéressant, Spartacus a finalement été aussi la pièce qui a permis à Pompée de briser les ambitions politiques de Crassus. Il fallait vraiment lui ôter les bénéfices politiques de la purge.
Alors, les historiens romains ont été, le peu qui en ont parlé, nous l'avons évoqué, ont été opposés à ces révoltes, mais un au moins a admiré Spartacus. Vous avez évoqué une part de légende à propos de l'utopie qui effectivement n'a pas existé, mais Pline l'Ancien, qui était un sévère et qui aimait la Rome à l'ancienne de la Première République, écrit « Spartacus avait interdit que dans son camp on possédât de l'or ou de l'argent, tant nos esclaves fugitifs avaient plus de caractère que nous ». Donc il y avait quand même une teinte d'admiration.
Oui, parce qu'à l'époque aussi, on est dans le topos de la Rome déjà amolie, décadente, corrompue moralement. Et on s'est servi de Spartacus pour montrer une sorte d'anti-visage.
Pour finir rapidement sur l'Antiquité, les chrétiens du temps, qui évidemment jusque à Constantin n'avaient pas beaucoup d'importance ni de tribune, mais je ne crois pas que là ou au moment de l'Antiquité, ils aient pris faveur en faveur de Spartacus. Aussi bien ils l'auraient pu puisqu'ils étaient égalitaires. Bon, je ne crois pas qu'il y ait de traces chrétiennes.
Non,
il y a
eu chez quelques chrétiens, bon, la crucifixion aussi, le motif, mais pas autant que dans une autre période dont on parlera peut-être.
Ouais. Nous allons maintenant entendre l'air de la révolte des esclaves du film Spartacus en 1960. La musique est d'Alex North. Christophe Honodibio, cela aurait pu être le meneur de la première guerre servile, cela aurait pu être le meneur de la deuxième, et c'est le meneur de la troisième, Spartacus, qui a été transformé en personnage et de là en symbole, celui de la révolte des minorités soumises. On s'en est emparé très tardivement. La première trace que j'ai trouvée dans les temps modernes de quelqu'un qui l'ait utilisé comme symbole, c'est un poète, et c'est Lamartine, qui, dans une pièce de théâtre sur Toussaint l'Ouverture en 1850, fait employer son nom, peut-être pour la première fois dans la littérature moderne française, par le haïtien qui dit « Ma double autorité tient tout en équilibre, gouverneur pour le blanc, Spartacus pour le libre ». Mais ça n'est qu'en passant, c'est juste une allusion. Et c'est un peu plus tard et de manière intéressante dans les romans populaires, vers 1860, que Spartacus arrive.
Oui, alors là, mais la grande période, c'est plutôt le XXe siècle, et c'est ça part quand même des...
Vous avez raison. Ouais. Ce qui est intéressant dans ces romans 1860-70, c'est que ce sont des romans qui servent visiblement, ça parle de Spartacus, mais ça sert visiblement à prendre la défense des communards qui sont calomniés par les Versaillais après la victoire des Versaillais. Donc il y a déjà un premier frémissement proto-communiste, si je puis dire.
Oui, puisque le schéma, on l'a dit tout à l'heure, le schéma est, j'allais dire, trop beau pour ne pas être utilisé, c'est-à-dire des apatrides, des gens qui ne sont pas traités comme ils devraient être, quand bien même ils auraient eu des destins grandioses dans leur pays d'origine, et qui se battent absolument seuls contre un pouvoir réputé écrasant, et en plus une masse totalement hétérogène avec des femmes, et effectivement ça ne pouvait que séduire un imaginaire à l'époque, ou dans une époque où les mouvements révolutionnaires commencent à éclore.
Évidemment, les spartakistes les plus connus sont les spartakistes. C'est Liebknecht et évidemment Rosa Luxembourg.
Oui, et puis on aurait pu citer Marx, juste avant, qui dans une lettre à Engels en 1861, a ces mots très beaux, « Pour me détendre, j'ai lu les guerres civiles de Rome d'Appien, dont on parlait. Spartacus est le plus splendide des hommes de l'Antiquité, un noble personnage vraiment représentatif du prolétariat de l'Antiquité. » Donc vous voyez, déjà on y est. Et effectivement, Rosa Luxembourg, dans un célèbre discours, donc la fondatrice de cette ligue spartakiste, lors de la...
Donc nous sommes au moment de la Première Guerre mondiale.
Exactement. Donc 1915, est fondée la ligue spartakiste. Et elle a ce fameux mot en décembre 1918 à Berlin, alors qu'elle présente le programme du PC allemand, le KPD. Elle a dans son discours, elle répète ça: clouer Spartacus sur la croix, crient les capitalistes tremblants pour leur coffre-fort. Donc on est toujours dans cette reprise du motif, voilà, encore la croix, et de cet homme qui a symbolisé la possibilité, en fait, d'une révolte gagnée, paradoxalement, puisqu'il est mort.
Ce qui est intéressant, c'est que là, ça n'est pas, vous avez cité Marx, mais là, ni Liebknecht, ni Luxembourg ne sont des théoriciens. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, des hommes d'action s'emparent du flambeau de Spartacus. Donc Liebknecht et Luxembourg sont assassinés, comme tout le monde sait, par les corps francs en 19. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, après eux, Spartacus, ou l'idée spartakiste moderne, est récupérée par un pouvoir, alors que Spartacus était un contre-pouvoir, et c'est évidemment l'URSS. Et de manière très symbolique, à la fin des années 20, l'Union soviétique crée les Spartakiades, qui sont des Jeux olympiques anti-bourgeois, et le fameux club de sport Spartak, d'où je ne suis pas un très grand amateur de foot, mais il existe encore un
le
club
Spartak
de foot.
Le Spartak de Moscou,
voilà, effectivement. Donc tout d'un coup, le spartakisme passe dans l'institution.
Oui, ben, c'est-à-dire que dès le moment où la révolution devient un système, j'allais dire, immobile, et permet au pouvoir de se constituer d'ailleurs comme pouvoir, il n'est pas étonnant que les figures de la mobilité, les figures d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, d'une insurrection, et qui n'était pas une révolution, soient aussi, commencent à susciter tous les fantasmes. Il y avait un côté très religieux chez Spartacus, justement, ce grand sacrifice aux dieux, et au fond, on a cette récupération de l'idéal antique, des Jeux olympiques, mais dans un système justement qui a mis à bas la religion, mais qui est lui-même une nouvelle religion. Donc la boucle est bouclée, et puis d'ailleurs la récupération antique de l'époque, de toute façon, on la trouve, j'allais dire, à droite comme à gauche, puisque fascisme et marxisme ont récupéré, je veux dire, les codes de l'Antiquité. C'est pour ça que quand des gens se battent...
Pas de Spartacus. La droite n'a pas récupéré Spartacus. La gauche, évidemment. Mais
c'était plus difficile.
Voilà.
C'était plus difficile.
Ce qui est assez frappant, c'est que dans l'ordre symbolique auquel je tiens beaucoup, je suis sûrement pas le seul, la chose très étonnante, c'est que les spartakistes aient choisi Spartacus, parce que Spartacus, c'est un perdant. Donc, dans l'ordre symbolique, il paraît maladroit de s'équiper d'un perdant.
Oui, mais est-ce un perdant ?
Bah oui, il a été...
Il a perdu la bataille finale, mais au bout de combien de temps, au bout de combien de batailles, il a quand même défié un... On aime les martyrs, et vous savez très bien que Che Guevara, par exemple, qui lui aussi a été un perdant, a été propulsé au rang d'icône. D'ailleurs, il y a aussi des montages, parfois photographiques aussi, qui coiffent les statues de Spartacus, du béret de Che Guevara. On aime aussi les perdants, on aime aussi les martyrs dans le camp rouge.
Che Guevara a gagné, il a été au pouvoir. C'est pas il a été tué, mais
il a perdu.
Quand vous regardez
ses grandes offensives en Amérique du Sud,
oui,
c'est ses grands projets d'évangélisation de l'Amérique du Sud,
l'Afrique du Sud. Il a réussi sa révolution avec Castro, c'est indéniable. Et il ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que lui ne s'est pas équipé de Spartacus, et que les révolutionnaires qui ont été au pouvoir ne se sont jamais équipés de Spartacus. Sous les sans-culottes, Robespierre, les révolutionnaires, les vrais de dur de 93, jamais n'ont invoqué Spartacus.
Oui.
Ils savaient que c'était un perdant.
Mais Gracchus, qui a été convoqué aussi par les révolutionnaires justement en français, a été assassiné. Aussi, et c'est pour ça que la question se pose. Et d'ailleurs, la raison de cette émission aujourd'hui, peut-être, Charles Dantzig, c'est que Spartacus n'a pas perdu, puisque nous en parlons encore aujourd'hui.
Non, bien sûr, mais ça n'est pas, comme vous l'évoquiez à demi-mot tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a perdu, évidemment. C'est-à-dire que c'est peut-être plus commode de s'équiper d'un perdant parce que c'est un perdant magnifique, que plutôt que d'avoir un objectif de pouvoir,
exactement,
on est un héros romantique.
Qui est toujours décevant. La gestion du pouvoir par Spartacus aurait certainement été très très décevante.
Donc du coup, à défaut du réalisme du pouvoir, on a le romantisme de la posture.
Exactement. Et de la mort au combat. Voilà.
Alors,
sans le corps. On n'a jamais retrouvé le corps de Spartacus.
Alors justement, je voulais en venir pour finir au corps, et ce qui est intéressant et probablement assez typique et peut-être triste des temps contemporains, c'est que la politique s'y dévie en sexualité. La dernière représentation en fiction de Spartacus, c'est une série américaine il y a 2-3 ans qui s'appelle Spartacus, et dont l'objet, si on le regarde comme j'ai fait pendant quelques épisodes, l'objet est à peu près uniquement de montrer des torses nus, transpirants et érotiques.
Oui.
Est-ce que le temps moderne, ça n'est pas, les temps actuels, disons, ça n'est pas la transformation de la politique en érotique, c'est-à-dire plus de politique du tout?
Oui, ce qui serait peut-être une bonne idée, de remettre un peu d'éros aussi dans la politique. Elle en a bien besoin, ça peut aider parfois. Mais c'est surtout, là, vous faites référence aussi aux récupérations, à la péplumisation de l'Antiquité qui nous déplaît tant et qui fait fi des faits historiques. Après, qu'on érotise le corps de Spartacus, pourquoi pas ?
Christophe Onodibio, que vous a appris le personnage ou le symbole de Spartacus ?
Ben, il m'a appris peut-être que, vous l'avez dit vous-même, il m'a appris qu'on n'est pas perdant même quand on perd.
C'était Personnage en personne, le 109e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Max von Stirlitz, le James Bond soviétique.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Valérie Lavala.
Ma vie, le paradis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le Rayon BD.
Grand jeudi, tous les jours paradis.